Bonjour, comme Simien et Guillaume Roubaud-Kouachi, les auteurs de Haro sur les Jacobins, essai sur un mythe politique français, paru aux presses universitaires de France, sont avec le concours de l'Huma Café de Nantes les invités de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'histoire ?
Est-ce qu'on a le droit de répondre à cause d'un prof d'histoire géo au collège qui nous a passionnés définitivement pour l'histoire et nous a plongés dans cette voie-là ? Il y a un petit peu de ça. Puis d'une manière plus générale, je crois, par curiosité et intérêt pour le passé.
Voilà. Il s'appelait monsieur ?
Monsieur Vido, professeur d'histoire-géographie à Lyon, dans le 9e arrondissement, au début des années 2000, au collège. En troisième.
J'aurais du mal à être si précis que ça. C'est vrai qu'évidemment, il y a plusieurs figures d'instituteurs ou de professeurs qui m'ont marqué. Mais justement, j'étais un peu hésitant, moi, entre l'histoire et quand j'ai découvert la philosophie en terminale, ça me plaisait beaucoup. Puis j'aimais beaucoup aussi la littérature. Enfin, c'était compliqué. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai rejoint définitivement l'histoire un peu plus tard que Côme. Et puis voilà.
Tous les deux, vous avez soutenu une thèse, vous comme Simien, des maîtres d'école aux instituteurs, une histoire de communauté rurale, de république et d'éducation entre lumière et révolution.
Exactement, une thèse soutenue en 2017 à l'université Clermont-Auvergne, une thèse sur les instituteurs de la Révolution française et puis aussi sur leurs prédécesseurs, les maîtres d'école de la fin de l'Ancien Régime, un sujet qui plongeait aussi dans un intérêt premier pour la période de la Révolution française, pour les questions politiques et culturelles autour de la Révolution française, mais aussi dans une histoire personnelle. Grand-père, instituteur, secrétaire de mairie sous la 4e et 5e République, mère institutrice elle aussi. Donc voilà, il y avait presque une dimension généalogique là-dedans.
C'est ce qui explique à la fois le choix du sujet et puis de la période aussi.
Alors c'est le choix de la période qui a primé, c'est-à-dire que j'ai choisi la période de la Révolution française, c'était vraiment sur celle-ci que je voulais faire ma thèse. Et puis ensuite, il s'agit de trouver un sujet plus précis sur la Révolution française et au milieu de d'autres possibles, ce sujet-là m'a parlé, pour des raisons, j'imagine, personnelles, puis pour des raisons d'intérêt aussi, c'est-à-dire que la Révolution française avait fait de l'éducation un enjeu politique de toute première importance, en essayant pour la première fois de faire de l'école un endroit où les enfants pourraient apprendre à devenir citoyens. Donc il me semblait que c'était, au-delà des enjeux personnels, une façon de comprendre en profondeur la période de la Révolution.
Guillaume Roubaud-Kouachi, la thèse, c'était en 2020, intitulée « Les jeunes communistes en France, 1944, fin des années 1970, les mutations d'une expérience politique en milieu juvénile et populaire ».
Tout à fait ça. Voilà, vous êtes bien renseigné. Je ne peux pas vous dire davantage. Non, si ce n'est qu'effectivement, c'est une affaire qui s'est conclue un peu plus tard que Gaume, parce que je suis un peu plus lent, mais qui s'est menée autour des jeunes communistes pour des raisons qui, peut-être, au départ, étaient mauvaises, peut-être. C'est-à-dire que j'étais moi-même jeune communiste et je me disais, tiens, je voudrais bien travailler sur cette chose, cette structure à laquelle... Je me trouvais appartenir au lendemain d'un mouvement social qui avait été marqué par la forte présence de la jeunesse. C'était en 2006, c'était la mobilisation contre le contrat première embauche de Dominique de Villepin à cette époque-là. Et puis la mauvaise raison s'est transformée en bonne raison, c'est-à-dire que en fait, il se trouve qu'il y avait très peu de travaux sur cette affaire et qu'il y avait de quoi raconter quelque chose de, je crois, intéressant. Et comme Simien, vous pouvez lire sa thèse qui a été éditée aux éditions du CTHS, j'ai bon espoir que vous pourrez bientôt lire plus largement cette thèse qui est d'or dans les sous-sols de la Sorbonne, mais qui bientôt, j'espère, pourra être proposée sous une forme de livre.
Chacun, vous auriez pu travailler de votre côté.
C'est vrai, il y aurait pu avoir deux livres. En réalité, il y avait matière à faire deux livres, c'est pareil. Mais il me semble que c'était plus intéressant de les conjoindre en un seul et même volume, dans la mesure où on est quand même, parlant de 2025, des Jacobins. C'était intéressant, dans un même mouvement, de retrouver les Jacobins et de voir ce qu'on en avait fait. Ça fait un objet qui a son unité et sa cohérence, quand même.
Puis, il y a cette dimension qui est là. C'est-à-dire qu'on part, effectivement, Guillaume vient de le dire, du présent. On part d'un constat qui est que chaque semaine encore, fort, on voit mobiliser l'étiquette jacobin, jacobinisme, pour désigner la centralisation, les jacobins contre les girondins, c'est encore quelque chose qui est très présent. Et donc nous, on est parti de cette situation présente-là pour essayer de la comprendre, comment ces termes étaient encore en usage aujourd'hui, mais pour essayer de comprendre ce qu'on dit quand on parle de jacobins, de girondins, il fallait bien remonter à la source, et la source, c'était la Révolution française, donc voilà, c'est un livre qui traverse le temps d'aujourd'hui à la Révolution, de la Révolution à aujourd'hui.
Comment on peut travailler sur une question qui n'aurait peut-être pas d'existence ?
Comment on peut travailler sur une question ?
Jacobin existe-t-il ? Donc peut-être qu'il n'existe pas.
D'accord, oui, c'est même un des aspects qu'on défend. Alors, au moins pour la partie qui concerne la Révolution française, c'est-à-dire l'époque où les Jacobins ont existé, là où il y avait un club des Jacobins, où il y avait des Jacobins bien vivants et membres voilà, de sociétés politiques qu'on appelait les clubs Jacobins. Et ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'à ce moment-là, entre 1789 et 1794, époque où existent des clubs Jacobins en France, il n'y a pas de jacobinisme au sens où il n'y a pas d'idéologie jacobine, qui soit structurée, qui soit partagée par tous les jacobins, qui auraient adhéré à un club par adhésion à cette idéologie-là, avec la volonté de la concrétiser dans un programme politique, dans des actions politiques précises. Il y a des valeurs partagées par les jacobins, la liberté, l'égalité, la fraternité également, l'unité et l'indivisibilité de la nation, tout un ensemble de valeurs qui font que on peut se retrouver dans un même cercle politique qu'on appelle un club jacobin, mais néanmoins ces valeurs-là, partagées par les jacobins, elles ne sont pas partagées que par les Jacobins. En réalité, les Girondins, d'ailleurs, étaient d'accord avec chacune des valeurs que je viens d'énoncer. D'ailleurs, les Girondins ont eux-mêmes, pour commencer, été membres des clubs jacobins, au moins de 1789 à 1792, sur une histoire des Jacobins qui va de 1789 à 1794. Donc, ils ont quand même été membres des clubs jacobins, les Girondins, pendant 3 ans sur les 5 ans de l'existence de ces clubs. Donc oui, nous, on explique qu'il n'y a pas d'idéologie jacobine qu'on pourrait appeler le jacobinisme dans la Révolution française. Et certainement pas, en plus, qui plus est, une idéologie qui concernerait l'organisation de l'État, le fonctionnement des pouvoirs, qui serait une idéologie centralisatrice. De ce point de vue-là, les Jacobins sont pas tous d'accord entre eux sur la manière d'organiser l'État. Et ce qu'on a observé et qu'on a essayé d'expliquer, c'est que dans la Révolution française, avant que se construisent des mémoires petit à petit sédimentées et affrontées, jacobins, girondins, etc., les girondins étaient en réalité eux-mêmes très centralisateurs pendant la Révolution française. Donc il y avait là tout un ensemble de couches de représentations, d'ailleurs souvent mis en place dès la Révolution française. C'est-à-dire que dès l'automne 1792, quand une rupture s'opère entre anciens frères en jacobinisme, c'est-à-dire jacobins et girondins, eh bien ce sont les jacobins qui vont commencer par taxer les Girondins d'être des fédéralistes, c'est-à-dire a priori des décentralisateurs. C'est après coup, mais dans la Révolution encore, à l'été 1794, que des révolutionnaires vont faire des Jacobins, de certains Jacobins du moins, comme Robespierre, des centralisateurs forcenés. Mais il y avait là aussi tout un ensemble de légendes à fonction politique dans la Révolution française, qui en réalité ne recouvre pas les réalités du moment. Voilà, ce sont des mots d'ordre politique qui avaient une fonction dans un conflit politique de très haute intensité, mais qui ne renvoient pas forcément à la réalité. Donc dans la Révolution, si on s'en tient aux faits, aux textes, aux discours, aux positions, il n'y avait pas d'idéologie jacobine commune qu'on pourrait appeler le jacobinisme.
C'est-à-dire qu'en fait, la différence pour la période qui suit la Révolution française, c'est que là, pour le coup, il y a bien des gens qui identifient un jacobinisme, peut-être même plusieurs jacobinismes qui vont essayer de le définir, qui vont s'en revendiquer comme une identité politique au présent, ou qui vont se revendiquer les enfants des jacobins, si je puis dire, de ce point de vue-là. Et donc on a voulu retracer un peu cette histoire sans forcément partir dans une perspective d'histoire conceptuelle qui aurait voulu dire, bon, les jacobins n'ont pas parlé de jacobinisme eux-mêmes, ils n'ont pas défini un corpus jacobin, mais nous, depuis 2025, on va établir le jacobinisme et ensuite on va traquer cet objet qu'on invente nous-mêmes dans le temps pour en retracer les incarnations successives. On n'a pas voulu faire ça, une espèce d'histoire un peu à distance de la réalité effective des siècles passés. On a voulu faire une histoire plus proche des acteurs, si je puis dire, de ce point de vue-là, c'est-à-dire des gens, les jacobins tels qu'ils furent, et puis ensuite les gens qui se revendiquèrent de cette étiquette qu'ils ont pu définir de manière différente. C'est pour ça qu'on n'a pas, moi j'ai pas traqué, on n'a pas traqué un jacobinisme particulier qu'on aurait défini une fois pour toutes, un jacobinisme transhistorique. On a regardé un petit peu, bah tiens, celui-là il se dit jacobin, et qu'est-ce qu'il entend par là, et qu'est-ce qu'il fait avec ça, et pourquoi est-ce qu'il mobilise cette espèce d'étiquette, quel objectif ça a pour lui, quel sens ça a pour lui de revendiquer cette identité, ou plus tard de revendiquer cette filiation.
C'était ma question suivante.
C'est-à-dire ?
Ils sont très hétérogènes, ces clubs jacobins.
Pendant la Révolution, oui, il y a des clubs qui se disent jacobins et qui sont d'évidence très différents les uns des autres. Alors, pour poser les choses concrètement, il y a d'abord eu un club jacobin, qui est le club jacobin de Paris, qui est fondé fin novembre, début décembre 1789, avec des députés du côté gauche, des députés révolutionnaires, pour essayer de peser dans le débat à l'Assemblée nationale face au côté droit, qui lui avait déjà le désir d'arrêter la Révolution là où elle en était arrivée, c'est-à-dire pas encore forcément jusqu'au bout de ce qu'espéraient les révolutionnaires. Et puis dans la foulée, d'autres clubs vont se créer, qui vont se revendiquer d'une sorte de lien avec le club des Jacobins de Paris et qui vont eux-mêmes se penser comme des clubs jacobins. Au point que va se déployer dans le pays tout un réseau de clubs jacobins. Il y a déjà plus de 300 clubs qui s'estiment jacobins en 1790, plus de 900 en 1791, il y en a plus de 6000 en l'an 2 de la République, en 93-94. Mais ces clubs, ils sont évidemment différents, déjà par leur taille, aussi par leur composition sociale. À Paris, on a un club qui a quand même de très grandes figures, Robespierre, Marat, Danton, Desmoulins, des gens comme ça. Alors qu'en 1793-94, il y a des clubs qui ouvrent parfois jusque dans des villages, des chefs-lieux de canton, voire même de modestes villages de campagne, où on voit des simples paysans, des instituteurs par exemple, pour revenir à l'objet de ma thèse dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est des réalités politiques très différentes entre le député d'une assemblée nationale et quelqu'un qui peut être un ouvrier, un paysan, etc. Après, les idées en plus ne sont pas constamment toujours les mêmes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de corps de doctrine partagé et défini à ce moment-là. Ensuite, pendant le 19e et le 20e siècle, alors là, ceux qui se revendiquent de l'étiquette jacobine et du jacobinisme, eh bien c'est une réalité qui n'arrête pas d'être mouvante en fonction des combats politiques du présent. Mais là, Guillaume serait encore mieux placé que moi pour vous expliquer tout ça.
J'ai plus rien à faire, c'est super.
Ça circule facilement.
Comme Simien et Guillaume Roubaud-Kouachi, les auteurs de Haro sur les Jacobins, essai sur un mythe politique français paru aux presses universitaires de France, sont avec le concours de l'UMA Café de Nantes les invités de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
Une des particularités de cette étiquette jacobin-jacobinisme, c'est que des gens vont y mettre des réalités différentes derrière. Mais il y a des gens qui vont employer cette expression comme quelque chose de très négatif, si je puis dire. Et d'ailleurs, le livre investigue aussi, non pas seulement ceux qui se revendiquent de cette étiquette, mais aussi ceux qui veulent la coller sur le front du voisin comme une marque d'infamie, si je puis dire. En réalité, c'est compliqué, cette affaire de l'existence de ce mot. Alors bon, commençons d'abord peut-être par ce qui, aujourd'hui, est peut-être le moins présent ou très présent dans l'imaginaire commun de 2025, c'est-à-dire commençons par ceux qui revendiquent le terme. Parce que pendant longtemps, beaucoup de gens se sont revendiqués jacobins ou héritiers des jacobins. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là et à quoi ça servait? En longue durée, quand même, c'est plutôt une sorte d'étiquette de distinction sur la gauche. Ça veut dire, souvent, c'est quand même quelque chose qui apparaît pour se distinguer, pas seulement des contre-révolutionnaires. Bon, bah ça, c'est pas la peine, vous brandissez 89 et ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller sortir les jacobins spécifiquement pour se démarquer des contre-révolutionnaires. Les contre-révolutionnaires, c'est les partisans de l'Ancien Régime ou d'un retour à l'Ancien Régime, et c'est pas une réalité secondaire au 19e siècle. Parce que tout le monde a peut-être sa chronologie des régimes, et on se dit, bah après tout, une fois que la Restauration est finie en 1830, c'est une affaire terminée. C'est pas du tout une affaire terminée, en réalité, cette question de la contre-révolution, c'est une question très présente pendant tout le 19e siècle. Mais bon, donc, il n'y a pas forcément besoin de sortir les jacobins quand on doit affronter les contre-révolutionnaires. Mais en revanche, quand des révolutionnaires ou quand des partisans 89 sont au pouvoir, mais des partisans très timides sur le plan social, très timides sur le plan démocratique, typiquement des gens comme Louis-Philippe Ier, par exemple, après les Trois Glorieuses, donc après la fin de la Restauration, on est en 1830, et donc des partisans de 89, en tout cas des gens qui disent s'inscrire dans la filiation de 89, donc pas des contre-révolutionnaires, se trouvent au pouvoir, mais par contre, il n'y a pas de suffrage universel, par contre, il n'y a pas d'ambition sociale très très grande, on est très loin de tout ça. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui vont ressortir, si je puis dire, l'étiquette jacobine pour s'associer à une partie des discours, une partie des pratiques, surtout de Robespierre en réalité. En réalité, c'est lui. C'est ce que dit Agulon. On aurait pu dire robespierrisme, mais c'était peut-être un peu difficile. Ça n'a pas tellement pris. Finalement, c'est Jacobin qu'on va utiliser beaucoup, encore plus que robespierriste finalement. Donc il y a cette dimension-là. Souvent, une image de distinction sur la gauche pour dire nous, nous sommes porteurs d'une ambition démocratique et sociale. Ça va durer en longue période. Même quand on se définira plus comme Jacobin, mais quand on voudra se placer en héritier des Jacobins, souvent c'est pour se démarquer d'une sorte de gauche modérée, si je peux dire, qui serait au pouvoir à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, par exemple. Et de l'autre côté, l'image très négative des Jacobins et du jacobinisme, alors là, il y en a de plusieurs sortes, si je peux dire, je vais quand même abréger un peu, mais partons peut-être de celle qui domine aujourd'hui, et essayons de voir depuis quand elle est là, et quels sont les moments un peu de force qui la ramènent un peu au devant de la scène. Bon, aujourd'hui, comme vous le disiez, comme l'image dominante quand même qu'il y a derrière le terme jacobin, c'est plutôt une image négative et plutôt une image qui a trait à la centralisation. Alors, c'est une très vieille histoire, puisqu'effectivement, c'est une insulte qui est une macule, une tache, une caractérisation qui arrive dès l'époque de la Révolution, comment dire, dès les années 94, dès la fin de l'expérience et de l'élimination du club des Jacobins. Bien, mais comment cette idée, disons, si je puis dire, trouve de la force à nouveau et comment est-ce qu'on peut avoir une image assez négative, si je peux dire, du club des Jacobins, comment est-ce que la dimension très négative du club des Jacobins finit par l'emporter. Ben c'est surtout, en réalité, une initiative qui vient du monde plutôt libéral, à partir des années 60 et surtout 70, qui voit à travers la figure des Jacobins une des images originelles de ce qu'elle combat, cette frange libérale, on va dire, des années 60-70, c'est-à-dire essentiellement ce qu'elle va appeler le totalitarisme. En fait, à un moment, dans ces années 1960-1970, on va considérer que le problème majeur, ce à quoi il faut absolument échapper, c'est ce qu'on va appeler le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est marqué notamment par une grande force de l'État, de l'intervention publique, avec des gens qui sont très, très assoiffés de grands principes, etc., etc. Et donc, en fait, on va finir par fusionner les Jacobins, l'image des Jacobins, avec l'image, si je puis dire, des communistes, mais dans un sens le plus stalinien possible, si je puis dire. Et donc, c'est cette image-là qui va quand même peser pas mal pour finir par quand même mettre en difficulté un peu, si je peux dire, les images positives des Jacobins qui pouvaient exister en longue période. On va considérer que c'est un peu la racine du mal profond qui serait le totalitarisme dans cette période-là. Alors vous allez me dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Jacobins, on n'a plus forcément non plus cette image aussi terrible et redoutable qui était celle que pouvait porter quelqu'un comme François Furet, par exemple, quand il pouvait évoquer cela. C'est vrai, même si ça se discute, parce qu'il y a quand même toute une partie de l'extrême droite française qui continue à porter une image extrêmement négative des Jacobins, mais il reste quelque chose d'assez appauvri, qui est donc au moins en tout cas cette idée des Jacobins centralisateurs. J'ai pas fait le tour de l'ensemble des légendes et de leurs évolutions, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a de gauche, il y en a de droite, il y en a des libérales, il y en a des contre-révolutionnaires, mais en tout cas voilà, pour résumer d'un mot, souvent quand on se revendique du jacobinisme, c'est pour dire une aspiration démocratique et sociale et pour se démarquer par rapport à une gauche plus modérée en la matière. Et après, quand on attaque le jacobinisme, bah, chacun y met un petit peu ce qu'il a envie. Mais souvent, on voit bien ces thématiques-là, ces thématiques notamment de la place de l'État, de l'intervention publique, qui peuvent être des éléments importants qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la décentralisation à certains égards.
Donc on peut se revendiquer jacobin malgré une image négative.
Eh bien, en fait, c'est un combat, mais pendant un moment, si vous voulez, l'image négative et l'image positive peuvent se ressembler. Par exemple, si vous êtes, parce qu'aujourd'hui ça paraît un peu exotique, mais si vous êtes partisan du suffrage universel dans les années 30, c'est pas du tout évident. Si aujourd'hui vous dites, et encore si on creusait, ça, on verrait, mais en tout cas aujourd'hui, tout le monde est plutôt officiellement partisan du suffrage universel, en gros quand même. Donc ça paraît évident et ça paraît un peu exotique de se dire que des gens ont pu ne pas l'être. Mais dans les années 30 du 19e siècle, c'est pas du tout évident, et même avant. L'idée que des gens instruits et des gens non instruits et la même capacité d'intervention politique n'est pas du tout quelque chose d'évident. Et donc, partant, on pourra donc considérer que oui, les Jacobins sont des démagogues, des gens qui n'ont pas de raison et qui veulent donner autant de pouvoir à des gens qui n'en ont pas les moyens, qui n'en ont pas la capacité, vous voyez. Donc, de ce point de vue, quand le contre-discours rejoint le discours positif, vous voyez, à la limite, c'est pas très très compliqué. Et puis, autre chose, c'est que le jacobinisme, parfois, évidemment, on lui associe souvent l'image de la répression la plus extrême, extrême, si je puis dire, et la plus systématique. Donc c'est aussi évidemment aussi une manière parfois pour ceux qui sont au pouvoir de tenir à distance toutes les ambitions de transformation sociale en disant « Ah, vous voulez, comme les Jacobins, le suffrage universel ou des droits sociaux, ah, on sait très bien comment ça se termine, on commence comme ça, et avec, vous avez forcément la terreur. » Vous voyez, si je peux dire, vous avez la répression de masse. Donc il y a aussi ces discours parfois face auxquels on doit se mobiliser. Et puis, terminons. En réalité, si on regarde le 19e siècle, il y a quand même de longues périodes avec des régimes autoritaires. Et quand ces régimes autoritaires parlent négativement des Jacobins, on voit bien qu'en réalité, pour un certain nombre de personnes qui habitent ce pays et qui ont la tête dure, ça peut valoir une forme de publicité. C'est-à-dire que si un régime oppressif vous dit « le jacobinisme, c'est mal », vous vous dites « ah, peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faut aller regarder ». Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, le fait de subir une propagande négative est parfois aussi un élément qui pointe du doigt des éléments vers lesquels regarder.
Ce qu'on peut ajouter, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même ce qu'on voit bien dans ce que vient d'expliquer Guillaume, c'est à quel point depuis 2 siècles, on fait de la politique en France à partir des principes légués par la Révolution, mais à partir des mots forgés par la Révolution aussi. Jacobin, girondin, jacobinisme, girondinisme, république, démocratie, tout ça naît de la Révolution, mais elle nous a légué des mots, jacobin, girondin, terreur, voilà, toutes ces choses-là, et qui sont souvent en réalité des mots piégés, c'est-à-dire que nous, on les investit d'un sens comme s'ils étaient évidents, alors qu'ils sont nés eux-mêmes dans la Révolution française, de tout un ensemble de combats qui ont pu être des combats mortels, hein, voilà, assigner la décentralisation, le fédéralisme aux girondins, c'était une façon de justifier le fait de les éliminer, imputer la centralisation à Robespierre après sa chute, parce que ça se joue dans les jours qui suivent sa chute, c'est-à-dire que Robespierre lui-même, hein, quand il fait des propositions constitutionnelles, défend plutôt l'idée qu'il faut accorder beaucoup d'autonomie, enfin de liberté aux communes, par exemple. Et c'est après sa mort qu'on lui assigne une identité centralisatrice pour mieux justifier le fait de l'avoir éliminé. Donc ça vient après coup par ceux qui l'ont fait tomber, de même que les Jacobins, un an plus tôt, avaient assigné le fédéralisme aux Girondins pour mieux justifier le fait de les combattre jusqu'à ce que mort s'en suive pour un certain nombre d'entre eux. Et ces mots-là, voilà, sont investis d'enjeux, sont investis de combat, et c'est une histoire qui dure à bien des égards jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a des pièges derrière tous ces mots légués par la Révolution, parce que ce sont des mots politiques, tout simplement. Mais c'est fascinant de voir à quel point ces mots politiques qui viennent de la Révolution continuent encore à vivre pendant les 2 siècles.
Comme Simien et Guillaume Roubaud-Kouachi, les auteurs de Haro sur les Jacobins, essai sur un mythe politique français paru aux Presses universitaires de France, sont avec le concours de l'UMA Café de Nantes les invités de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
Qui se revendique aujourd'hui jacobin et qui n'aimerait pas qu'on leur colle l'étiquette de jacobin ?
Aujourd'hui, c'est un constat qu'on a fait. Si on dit qu'aujourd'hui c'est 2025 et qu'on entend aujourd'hui au sens étroit, on est bien obligé de remarquer que là tout de suite, il n'y a pas une grande quantité de personnes qui se revendiquent de ce terme-là. Dans les années 60 encore, Jean Ferrat pouvait chanter « Ma France », celle qui répond toujours du nom de Robespierre.
Cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France.
Et quand il disait « Ma France qui répond toujours du nom de Robespierre », il n'entendait pas « qui répond toujours du nom de la guillotine hein. », il entendait « qui répond toujours d'une république démocratique et sociale ». Donc on retrouvait cet usage de l'étiquette jacobin, jacobinisme, qui avait été celle de nombreux révolutionnaires à travers le 19e siècle, une partie de la gauche également au 20e siècle. Aujourd'hui, c'est plus difficile à porter. Alors, 10 ans en arrière, côté Jean-Luc Mélenchon, c'était une étiquette qui était souvent brandie au moment du feu, le Front populaire en 2012, où il y avait des fronts de gauche. Excusez-moi, je corrige, du front de gauche où il y avait des manifestations avec cocardes, bonnets phrygiens où plus d'un discours s'était terminé par des citations de Robespierre, mais là aussi, hein, ça s'est un peu tari de ce côté-là, donc aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui mobilise cette étiquette-là, par contre, qui la mobilise positivement en disant moi je suis jacobin. Dans les années 80, Jean-Pierre Chevènement avait pu dire au moment, voilà, où, et là je suis sur les terres de Guillaume, mais au moment où le gouvernement socialiste prend une direction qui désoriente une partie des socialistes eux-mêmes pouvaient se revendiquer jacobins, au point que Michel Vauvel, dans ces années-là, avait fait un livre qui s'appelait « Les Jacobins de Robespierre, achevènement ». Mais c'était une façon de se démarquer sur la gauche, justement, par rapport à l'évolution du courant socialiste. Aujourd'hui, donc, pas grand monde. Par contre, l'étiquette est encore mobilisée beaucoup négativement. Voilà, la Vendée de Philippe de Villiers est plutôt Philippe de Villiers depuis la Vendée et le Puy du Fou. Mais à gauche aussi, l'étiquette jacobine n'a pas forcément bonne presse. Au moment des élections européennes de 2024, Raphaël Glucksmann a fait une partie de sa campagne sur le thème « Ni Jupiter, ni Robespierre », par lequel il sous-entendait ni Macron, ni Mélenchon. Mais ça s'était traduit par un déplacement qu'il avait fait en Gironde avec son parti Place Publique, dans lequel il revendiquait que son parti était un parti girondin par opposition aux jacobins. Donc on voit que c'est pas, voilà, là tout de suite, il n'y a pas grand monde qui brandit l'étendard jacobin.
Est-ce que c'est typiquement français ?
Écoutez, un des magazines de la gauche radicale américaine s'appelle Jacobin, en référence aux jacobins. Et ça montre qu'il y a là, en fait, une histoire des jacobins qui est aussi une histoire dans le monde, d'une certaine façon. Et ça a commencé tôt, cette histoire-là, puisque, en réalité, les clubs jacobins, je vous ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il y en avait de nombreux qui ouvraient en France, jusqu'à être 6000 en 1793-94. En réalité, c'est 6000 en France, parce qu'à la même date, des clubs jacobins ont commencé à ouvrir en Allemagne, en Pologne, en Italie, aux États-Unis même, les tout jeunes États-Unis d'Amérique. Mais à la fin du XVIIIe siècle, les historiens réussissent à identifier un club jacobin en Inde, en Asie. Donc c'est un modèle qui va avoir de la force à travers le monde. Des clubs jacobins ouvrent également dans ce qui est à l'époque les colonies françaises, notamment dans les Antilles, à Saint-Domingue, à la Martinique, etc. Donc c'est vraiment un modèle qui se déploie et qui va exercer une forte influence et qui va, à bien des égards, faire office d'inflexion dans la manière, en Europe, en Amérique, de comment on fait pour organiser des mouvements politiques qui ont une vocation révolutionnaire et qui, en même temps, visent à mobiliser beaucoup de personnes au-delà des cercles les plus étroits des élites politiques du moment.
Oui, j'avais noté, hein, Saint-Domingue, il y avait des leaders comme Toussaint Louverture.
Oui, oui, alors même si on a le droit d'avoir une position un peu critique envers Toussaint Louverture, aujourd'hui il est de bon ton de faire de Toussaint Louverture un héros libérateur. Si je peux étayer, Toussaint Louverture était un libre de couleur, c'est une catégorie juridique, hein, à Saint-Domingue. En tant que libre de couleur, comme d'autres libres de couleur, pas tous les libres de couleur, il était planteur, hein, Toussaint Louverture, avant la Révolution, il possédait des esclaves à ce titre-là. Et quand la Révolution arrive, il va faire partie des chefs insurgés à Saint-Domingue. À partir de 1791, qui vont être à la tête d'une insurrection des esclaves et des libres de couleur, qui va effectivement aboutir d'abord à l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, puis dans toute la République française, enfin dans toutes les colonies françaises, et qui va à terme aussi aboutir à l'indépendance de Saint-Domingue, qui va devenir la République d'Haïti, la première république née au fond d'une insurrection des esclaves pour acquérir leur liberté. Mais pendant les années du Directoire, qui court de 1795 à 1799, Toussaint Louverture est devenu l'homme fort de ce qui est encore Saint-Domingue et pas encore Haïti, et c'est un autocrate en réalité qui estime qu'il faut d'urgence rétablir la prospérité de l'île et qui va faire en sorte de façon très musclée, sous peine d'emprisonnement, que les esclaves devenus des citoyens retournent travailler dans les plantations où ils avaient subi des sévices terribles leur vie durant, la seule différence étant désormais qu'ils y seront amenés à y aller en tant que citoyens et moyennant une rémunération modeste, mais sans avoir le choix en réalité de faire autrement. Donc c'est un personnage à manier avec de nombreuses nuances, Toussaint Louverture.
Malgré tout, si on s'interroge sur l'écho international, il faut être frappé par le fait que tous ceux qui veulent changer les choses de manière un peu forte et qui réfléchissent à des alternatives, à un moment ou à un autre, ils retombent toujours sur la Révolution française. Il faut bien comprendre qu'au 19e comme au 20e siècle comme aujourd'hui, la Révolution française reste un moteur un peu matriciel, on peut mettre émoteur et matriciel, il faut réfléchir, une matrice ou un moteur, comme vous voulez, disons, vers lequel on se tourne en se disant, bon, là, se pensent et se réfléchissent des choses qui nous parlent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'évidemment, quand on fait la Révolution en Russie en 1905, on chante la Marseillaise, bien sûr, que l'étiquette jacobin ou pas jacobin, elle circule à l'intérieur du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Est-ce que Lénine est jacobin ou pas jacobin? Est-ce que c'est une insulte? Est-ce que c'est positif? C'est des choses qui circulent dans ce cadre-là. Et puis on a parlé à l'instant de Haïti, de Saint-Domingue, un penseur américain important qui s'appelle C.L.R. James, fait un bouquin qui s'appelle Les Jacobins Noirs, en essayant de réfléchir. Quand on est un noir américain, on réfléchit à des modèles révolutionnaires, à ce qu'on peut faire. Et bien évidemment, il va regarder aussi de ce côté-là. Donc on est bien sur quelque chose qui embrasse très très largement au-delà au-delà des frontières de la France de l'époque ou de la France d'aujourd'hui.
J'ai envie de me projeter de l'autre côté des Alpes, en Italie. Donc, il y a des clubs jacobins, napolitains et romains avant l'unité italienne.
En fait, il y a des clubs jacobins en Italie à l'époque même de la Révolution française. Mais si là, on se projette vers le 19e siècle et vers le processus de l'unité progressive de l'Italie qui se met en place au 19e siècle, on se rend compte qu'en fait, au début du 19e siècle, dans les années 1820, se mettent en place notamment des sociétés secrètes. C'est une façon de faire de la politique aussi au début du 19e siècle, les sociétés secrètes, ne serait-ce que pour déjouer des questions de répression. Et qu'il y a des sociétés secrètes en Italie qui se revendiquent comme jacobines à un moment où en France, il n'y a plus de clubs jacobins depuis un moment. Mais on voit quand même comment cette étiquette-là circule en sourdine, de façon clandestine éventuellement, à bas bruit souvent, parfois de façon plus bruyante. Ça veut dire quand même que le mot est là, que la référence est là aussi. Et même si ces gens qui se disent jacobins et qui organisent des clubs secrets jacobins, pour faire de la politique, ne pense plus forcément exactement la même chose qu'on pouvait penser dans un club jacobin, avec toute la diversité d'ailleurs de ce qu'on pouvait y penser pendant la Révolution française. On voit bien qu'il y a quelque chose comme une référence, une inspiration qui circule et qui circule là, au-delà des montagnes.
Merci à Guillaume Roubaud-Kouachi et à Com Simien, les auteurs de Haro sur les Jacobins, essai sur un mythe politique français paru aux presses universitaires de France, pour leur libre participation à ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, réalisé avec le concours de l'UMA Café de Nantes.